Une œuvre. Bonjour à toutes et à tous. Léopold von Sacher-Masoch, 1836-1895. Alors que le grand public s'empourpre et se pâme à la lecture de 50 nuances de Grey, et en ce moment dans les salles obscures pour goûter à l'adaptation cinématographique de cette histoire de passion sadomasochiste, Une vie, une œuvre vous offre de rencontrer le véritable Léopold von Sacher-Masoch, dont le roman « La Vénus à la fourrure » a contribué à donner son nom à une perversion. Embarquez donc pour Lemberg, dans la province magique de Galicie, à la poursuite d'un aristocrate fasciné par les femmes et les fouets et qui inspira les plus grands psychiatres et penseurs, de Krafft-Ebing à Jacques Lacan, en passant par Freud et bien sûr Gilles Deleuze. Préparez-vous ce faisant à passer un étrange contrat avec le fils d'un préfet de police qui conversait avec la déesse Isis, Leibniz et Kafka, et pour qui tout était pour le pire, dans le pire des mondes possibles. Léopold von Sacher-Masoch, La morsure de la fourrure, un documentaire de Monette Berthomier et Dominique Costa.
Pierre-Emmanuel Dosa, comment dit-on ? On dit Sacher-Masoch, Sacher-Masoch ou Masoch ?
Écoutez, je pensais que nos arrière-grands-pères devaient dire Sacher-Masoch, du temps où il était publié dans la revue des Deux Mondes, où il était reçu par le président de la République, où il publiait dans le Figaro. Du temps où on lui remettait la Légion d'honneur, d'ailleurs. Sacher-Masoch, ça faisait bien français. Je pense que dans son
propre...
La Légion d'honneur, oui. Du président de la République lui-même. Le président de la République l'avait envoyé une très jolie lettre avec la Légion d'honneur. Je pense que dans l'Empire austro-hongrois, alors naturellement, on devrait faire le « re » pour les « che », mais que d'origine galicienne, de toute façon, c'était deux noms qui étaient accolés, deux noms qui venaient de régions différentes. Il était d'origine slave, on le prenait pour un Hongrois, et en plus, on lui a attribué des origines juives, ce qui peut-être, au vu des lois raciales, les nazis l'ont pris pour un juif et ont brûlé ses livres. Mais finalement, je pense qu'il y a eu autant de lecteurs que de prononciations de son nom. Donc je pense que le mieux, c'est de prendre la prononciation actuelle en française, qui est Sacher-Masoch. C'est probablement la prononciation qu'a imposée de toute façon Krafft-Ebing en inventant le mot de masochisme. Donc Sacher-Masoch, et puis voilà.
Elle recule et me contemple avec un sombre sourire. « Sois donc mon esclave et prends conscience de ce que c'est que de tomber aux mains d'une femme. » Au même instant, elle me donne un coup de pied. « Eh bien, cela te convient-il ? » Elle brandit la cravache. « Relève-toi, je veux me lever. Pas ainsi, ordonne-t-elle, à genoux. » J'obéis et elle commence de me fouetter. Les coups tombent prompts et dorus sur mon dos et sur mes bras. L'un d'eux entaille mes chairs et la brûlure persiste, mais ses souffrances me ravissent car elles viennent d'elle, d'elle que j'adore et pour qui je suis prêt à chaque instant à donner ma vie.
Ce qui est étrange, Pierre-Emmanuel Dosa, c'est que, en fait, l'auteur a un peu disparu au profit de la philosophie qui est née de son nom.
D'une toute petite partie de la philosophie, beaucoup de spécialistes comme Quignard, comme Deleuze, comme Corsetti ont remarqué très justement que si un psychiatre s'était emparé du jeune Proust en inventant le proustisme comme une maladie, une perversion du sexe, toute l'œuvre de Proust aurait disparu. Il se trouve que l'une des rançons du succès immense quand même de Sacher-Masoch en son temps et un succès européen, ça a été qu'une toute petite partie de son œuvre a fasciné les psychiatres et qu'on en a fait que ça enrichit le patrimoine nosologique ou nosographique de l'humanité et qu'on en a fait une maladie. Du coup, toute une partie de son œuvre n'a pas été lue et on a finalement ce que l'on prête comme idée à Sacher-Masoch, c'est une partie des idées qui sont exposées dans Vénus à la fourrure. Et Vénus à la fourrure, qui est en réalité une partie d'un diptyque. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement réducteur et réduit ce qu'on en a fait. Et puis il y a autre chose qui est extrêmement gênant, c'est que Sacher-Masoch était un homme qui était un feuilletoniste d'abord. Donc il publiait énormément de choses et comme la presse payait mal, publié de manière très épisodique, il était obligé de démultiplier les... Donc il déclinait toutes ses idées, tous les cas de figure, avec un petit côté racoleur parfois, c'est certain, mais avec quand même une suite dans les idées évidentes qui fait qu'il a construit des cycles énormes. Et à sa mort, il y avait plus de 120 titres quand même qui avaient été publiés. Donc de là à la petite notice que Kraft Ebing a fait dans sa Psychopathia Sexualis, il y a un monde. Et il est évident que quand on parle aujourd'hui de masochisme ou de Sacha Mazoch, on n'évoque qu'une toute partie de son œuvre. Ce qui est très dommage parce que lui-même a été théoricien de sa propre œuvre et dans un texte qui n'a pas été traduit en français mais qui à mon avis est assez séminal, qui s'appelle de la valeur dans la littérature, il explique qu'il a voulu faire quelque chose comme une théodicée, rien moins qu'une théodicée, et son point de référence c'est Leibniz naturellement. Et alors il dit... tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, ça c'était Leibniz, moi je dis que tout est pour le pire dans le pire des mondes. Mais il y a une solution. Alors la solution, et c'est là où Kraft Ebing a probablement eu raison, c'était que il y avait quelque chose à voir dans le rapport entre les sexes, et que le partage des sexes tel qu'il avait été conçu n'était pas forcément le plus judicieux. En tout cas, ça n'était certainement pas la solution définitive. Il devait y avoir beaucoup plus de plasticité dans le passage d'un sexe à l'autre, et que ce qu'il y avait de féminin dans le sexe féminin ou de masculin dans le sexe masculin n'était pas forcément ni ce qu'on avait dit, ni quelque chose de définitif, sans quoi, pour lui, c'était évidemment rédhibitoire.
En 1848, dans Prague en pleine révolution, Mazoch, adolescent, rencontre le jeune Bakounine. Il est frappé par la vivacité de son esprit et par l'audace de ses projets. Plus tard, en 1860, sa chère Mazoch est toujours installée dans la maison paternelle, à Graz, capitale intellectuelle de l'Autriche. Le préfet a été mis à la retraite, la situation familiale n'est plus très florissante, mais la maison est fréquentée par de nombreux artistes et intellectuels. Sa chère Mazoch est devenue fourriériste. Il défend l'amour libre et dit son hostilité au capitalisme triomphant dans un monde qui va à sa perte. Christiane Théris.
Mais écoutez, Freud en a beaucoup parlé beaucoup du masochisme, et donc il a éclairé la position du personnage du livre de Sacha Mazoch, parce que c'était pas lui-même qui était masochiste, c'était le personnage de son livre, tout comme les personnages de Sade, ce n'est pas Sade. Hein, c'est quand même étonnant que des perversions aient pris le nom de personnages de la littérature. Il faut que ce soit écrit pour qu'on comprenne comment ça marche. Et donc, ces deux auteurs ont écrit, et des penseurs, bien entendu, se sont penchés sur ça. Deleuze a écrit sur Mazoch, et entre autres, Lacan a écrit sur Sade, et sur Kant avec Sade, c'est-à-dire le rapport de Sade et à la loi. On voit bien qu'effectivement, le rapport à la loi, c'est pour édicter quelque chose qui serait bien entendu, alors que Sade subvertit le rapport à la loi et édicte des choses qui seraient sur le versant du mal. Puisqu'il n'y a pas de garant absolu de la loi. Il dénonce cette butée de la loi, qu'effectivement, à part la loi divine, eh bien, les lois humaines, elles sont sans garant. On peut édicter n'importe quelle loi. Et Sade, il déploie le fait que la loi, ça peut être la loi du suprême en méchanceté. L'envers d'une loi dite chrétienne, enfin. C'est pas le dieu tout amour, c'est le bourreau toute méchanceté. Et Lacan éclaire le parallèle entre Kant, que t'as les lois universelles, et Sade. Il montre que effectivement Sade éclaire Kant. Et Deleuze, dans son travail de présentation de sa chère Mazoch, ce livre de 69, je crois, ou 67, il éclaire le rapport de Mazoch à l'hégélianisme, à la question du contrat. Et c'est assez rigolo, parce que quand même, quand on parle de contrat, on pense au contrat social de Rousseau, et Rousseau, c'est un des premiers écrivains, dans ses confessions, qui décrit une scène de jouissance strictement masochiste, autobiographique, bien entendu. Et on voit le rapport entre le contrat social, enfin, c'est le versant politique du masochisme, quasiment. Cette scène, il décrit dès les premières pages des confessions, alors je cite, « un châtiment d'enfant reçu à 8 ans par la main d'une fille de 30. » Et il nous dit, il a décidé de mes goûts, de mes désirs, de mes passions pour le reste de ma vie. Et ce châtiment, c'était une fessée. Il dit, après l'exécution de la sentence, hein, puisqu'il avait fait une bêtise et qu'il a été puni, je la trouvais moins terrible à l'épreuve que l'attente ne l'avait été. Et il dit aussi, ce qu'il y a de plus bizarre, c'est que le châtiment m'affectionna encore davantage à celle qui me l'avait imposé. J'avais trouvé dans la douleur, dans la honte même, un mélange de sensualité qui m'avait laissé plus de désir que de crainte de l'éprouver, derechef, par la même main. C'est-à-dire, il en redemande.
C'est Rousseau.
C'est Rousseau. Oui, c'est pas sa chère Mazor. C'est Rousseau qui a écrit le contrat social. On voit le rapport entre vraiment le masochisme et le contrat.
Alors, on va essayer avec vous, Pierre-Emmanuel Dosa, d'entrer dans cette œuvre, dans cette philosophie qu'il a développée dans différentes œuvres. Cette œuvre a intéressé, bien sûr, pas mal de philosophes. Deleuze a parlé de sa chère Mazoc. Il a notamment étudié son rapport à la loi.
Son rapport à la loi, oui. Son rapport à la loi et à la manière de sortir de la loi. De la loi, donc de la transcendance, par la notion de contrat. Alors, Deleuze, à mon sens, a parfaitement raison, c'est que l'essor de l'économie capitaliste, tout simplement, est fondé sur le contrat, sur ce qu'on appelle le contrat synalagmatique. Donc, le mariage est un contrat, vous supprimez Dieu, vous supprimez la loi, il ne reste que le contrat. Donc, de ce point de vue-là, c'est un rapport pour un but très particulier entre un homme et une femme, et curieusement, ce même rapport de contrat, la même pensée du contrat, se retrouve aux origines de la psychanalyse, d'ailleurs. Hein, c'est Freud pensait le rapport entre le patient et son thérapeute comme un contrat. Il y avait une relation spécifique dans un but bien précis, et ça se limitait à ça. Alors, où il y a beaucoup d'ironie chez Sacha Mazoc, c'est que le contrat, il le réduit sur un point très précis, qui n'est pas en général la totalité de ce que l'on veut considérer sous le nom de mariage. Mais ce qui est intéressant dans l'analyse de Deleuze, c'est justement qu'il montre le rôle du contrat, et il montre que dans un contrat, il y a quelque chose qui circule, ça n'est pas quelque chose de figé comme dans une loi. Donc il y a en effet ce côté très libérateur qu'il a parfaitement compris, et qui est pour lui alors... Chez Deleuze, l'autre aspect de sa pensée quand il parle de contrat, c'est précisément le refus de considérer que le phallus appartient uniquement à l'homme. Et donc il montre très bien, en séparant, en dissociant, parce qu'en réalité, l'analyse de Deleuze est née de son refus catégorique de lier le sadisme et le masochisme. C'était pour lui les deux choses complètement opposées.
On ne peut pas se rencontrer, les deux mondes ne peuvent pas se rencontrer.
Non, on ne peut pas se rencontrer. Alors, ça n'est plus du tout, ça ne correspond plus du tout aux catégories de la psychanalyse ou de la psychiatrie actuelle qui veulent voir aujourd'hui dans le masochisme beaucoup de sadisme inversement. Bon, il y a les études de Castel, il y a les études de Stoller qui sont des choses assez avec des descriptions cliniques très très fortes, et on voit très bien que ça n'a pas grand chose à voir avec ce qu'on a appelé le masochisme à partir de Krafft-Ebing. Mais chez Deleuze, il y a cette idée qu'à partir du contrat qui émancipe de la loi, toutes les choses vont pouvoir circuler, et que le masochisme est en même temps une libération. Alors, de ce point de vue-là, si vous voulez, je vous lirai volontiers ce petit passage. C'est dans son texte, la présentation de Sacha Mazoc. Il explique que le désir renvoie au monde du mythe et à sa répétition, et il montre que c'est un moyen de subvertir la mort, et il dit C'est à la fois une déclaration de programme et puis un constat analytique. Il dit « Le masochiste joue simultanément de trois processus de dénégation. Celui qui magnifie la mère en lui prêtant le phallus propre à faire renaître. » Donc c'est le salut par les femmes, et de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très partagé par son époque. « Celui qui exclut le père comme n'ayant aucune place dans cette seconde naissance. » Donc ça, c'est aussi le refus de la loi. Puisque s'il y a un contrat, il n'y a plus besoin du père qui oppose son autorité, et celui qui porte sur le plaisir sexuel en tant qu'il l'interrompt et en abolit la génitalité pour en faire un plaisir de renaître. Et donc l'idée essentielle aussi dans le contrat tel que l'entend Deleuze, c'est que rapport entre les sexes ne signifie pas génitalité. Partage des sexes ne signifie pas génitalité. Donc c'est une double émancipation. C'est l'émancipation du partage des sexes tel qu'il est défini transcendantalement dans la théodicée dont se réclamait Leibniz. Et puis c'est une émancipation à la fois du désir et de toutes ses incarnations possibles. Le désir existe en lui, il a sa propre économie qui n'est pas celle de la génitalité. Donc le masochisme tel que l'entend Deleuze à la suite de Masoch se passe parfaitement de toute relation sexuelle. Donc il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement subvertif, et qui du coup est très... il est très singulier de voir que 68 et tout le l'espèce de ce qu'on a appelé la libération des mœurs a permis cette redécouverte de Sacha Masoch, alors qu'il y a beaucoup plus de puritanisme et de refus de la sexualité dans le masochisme de Sacha Masoch, tout simplement parce qu'il attendait de ce lien très fort, presque phénétique entre les sexes, autre chose que de la génitalité. Il y avait pour lui une espèce de salut, et tout simplement, il l'a résumé très bien dans son programme. Quand il explique la mère de Dieu, il dit le péché est venu par la femme, il faut que ce soit la femme qui lave le monde de ce péché-là.
Est-ce que c'est ce qui crée cette atmosphère, je ne sais même pas comment la définir, une atmosphère lourde et difficile quand on lit certaines de ses œuvres? Il y a une atmosphère obsédante, mais aussi l'impression de tourner en rond un peu, oui.
Oui, de tourner en rond, d'abord parce que ce sont des histoires qui finissent souvent assez tragiquement. C'est souvent des petits épisodes, là il faut pas sous-estimer non plus la nature des supports dans lesquels il publiait ça. C'était souvent dans la presse, donc c'était conçu comme des feuilletons. Il fallait que tout finisse assez vite, et donc il allait... Mais qu'il évoque, par exemple, des épisodes de nihiliste, puisque très souvent, d'ailleurs, il a une formule qui est assez rigolote, une jeune femme très belle qui se coupe les cheveux et qui dit « Ah ben, comme ça, j'ai l'air d'un théologien. » Et naturellement, le préfet qui s'amourage de la jeune fille dit « Mais les nihilistes, elles sont très laides, c'est pas comme vous. » Et donc, théologien, laideur, tiens, comme par hasard, il a écrit une esthétique de la laideur. Qu'est-ce que ça voulait dire, l'esthétique de la laideur? Alors qu'il ne met, en général, dans ses scène de séduction, que des femmes très belles et des hommes relativement beaux, en tout cas qui avaient certains symptômes de puissance. Et donc, il a toujours que l'essentiel, même dans le sexe, n'est pas de l'ordre des apparences. Mais, donc, il y a ces petites histoires qui sont souvent fermées, qui sont closes, qui finissent souvent par un meurtre, par un échec, par un sacrifice, et ce genre de choses. Et puis, il y a, de toute façon, il a décidé de faire une espèce d'inventaire. Je crois que de ce point de vue-là, on peut le comparer à Balzac, d'ailleurs, dans certaines choses. Alors, là, c'est pareil, on est très surpris de voir que les nouvelles érotiques de Sacha Masoch ont été très bien reçues, que Sarrazine, la fille aux yeux d'or de Balzac, qui sont au même titre un inventaire et une manière de décliner toutes les figures du désir et de la perversion, ont choqué nos grands-parents. Donc ça se passait en Europe centrale, ça allait, dans des petites sectes, et puis voilà. Mais ce monde clos, ce monde étouffant, ce monde... Était quelque chose à la fois un stratagème littéraire et probablement l'expression d'une dimension tragique de sa part, avec malgré tout une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'il n'est pas toujours sûr que Sacha Mazoch ait été convaincu par ce qu'il écrivait, et que très souvent, il y a une petite pointe d'ironie. Il y a un petit commentaire où il dit finalement, ne vous y fiez pas, ça se passe pas tout à fait comme ça. On a trouvé cette fin-là, il pourrait y en avoir une autre. Et le livre dans lequel il le décrit le mieux, c'est sans doute L'amour de Platon, où finalement, donc, qui est un pendant très direct à Vénus à la fourrure. Et simplement, le jeune héros Platon, qui cherche l'âme sœur, ne sait pas trop bien ce qu'il cherche et qui trouve finalement une espèce d'androgyne. Ça, c'est une figure très classique. Ce qu'il est moins, c'est que cette espèce de fascination de l'androgynie et cette espèce de fascination du double, elle ne peut pas durer, et que à la fin, au lieu de rester dans l'adoration mystique, dans la célébration d'un au-delà du sexe qui serait inaccessible, en même temps sublime et suprême, donc ce vers quoi il faudrait aller, eh ben, il se réfugie à la campagne, il abandonne Platon pour Aristophane. Ce qui est quand même beaucoup plus drôle. Et donc il y a toujours quand même ce petit rire de Sacha Mazoch qu'il ne faut pas oublier. Mais ce qui est drôle souvent d'ailleurs, c'est que on parle d'érotisme dans tous ces livres-là, et dans La Mère de Dieu, c'est vrai que il prend une secte qui a plus ou moins existé, qui ressemble passablement à toutes les sectes, et notamment avec cette espèce d'obsession du sexe, en tout cas des rapports. Alors, c'est soi-disant une secte qui est fondée sur l'amour libre. Donc le contrat, c'est l'amour libre. Mais dès qu'on se rapproche de La Mère de Dieu, et dès qu'on se... Le contrat est toujours le même. Mais il est hors de question que le contrat soit accompli. Et que donc tout ce qui reste de ça, c'est la sanction du contrat, et que de toute façon, on n'est jamais à la hauteur du contrat. Et donc on est puni, et finalement, il ne reste que la punition. Et ça, on peut en faire une déclaration de programme, on peut dire, finalement, c'est la complaisance dans la souffrance. Mais on peut aussi dire que c'est un traitement par l'ironie, une dénonciation extrêmement féroce de toute une institution chrétienne qu'on a appelée le mariage et qui, dit-il, finalement, n'est faite que pour souffrir. On nous promet le plaisir et on n'a que la souffrance. Probablement parce que on a confondu...
En fait,
c'est une métaphore, et puis c'est aussi une manière de dire qu'est-ce qu'on va mettre... qu'est-ce qu'on va sexuer la Trinité, qu'est-ce qu'on va mettre de sexe dans Dieu et de Dieu dans le sexe. Et finalement, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est un grand prophète, un grand visionnaire, puisque dans le christianisme, tout ce que notre société aujourd'hui a reconnu du christianisme, c'est quand même sa morale sexuelle. Quand on parle du pape, on ne parle plus que de ça. Et de ce point de vue-là, Sacha Mazoch aurait mérité que au moins l'un de ses textes soit reçu comme une encyclique aujourd'hui.
C'est pas nouveau, le masochisme. Ce qui est nouveau, c'est de donner le nom de Mazor à une perversion. Mais le masochisme, ça a toujours existé. Il y a quelque chose dans le rapport entre les hommes et les femmes qui induit... La guerre des sexes, c'est quand même une histoire de domination. Alors, que la femme soit dominante par rapport à l'homme, ça subvertit un peu les rôles habituels. Mais il y a quelque chose... Je sais plus qui c'est qui disait qu'il y avait quelque chose... Un rapport entre masochisme et le lien conjugal, quoi. Il y a toujours un rapport de servitude. Le mariage, c'est un contrat. Et le masochiste, il établit un contrat. Alors, il y a vraiment quelque chose de lié, quoi. Et effectivement, avec les nouvelles formes de la conjugalité, pas les nouvelles formes légales, mais les nouvelles formes usuelles de la conjugalité, avec quelque chose d'un remaniement aussi, des rapports entre les sexes. Donc on peut imaginer que c'est aussi lié au monde contemporain, cette promotion du masochisme en tant que perversion.
Alors fouettez-le, crie-t-elle. Cela dépasse mes imaginations. J'ai froid dans le dos en voyant mon rival apparaître avec ses bottes, son étroit pantalon blanc et sa redingote bien ajustée, et en remarquant sa carrure athlétique. « Vous êtes vraiment cruel, » dit-il en se tournant vers Vanda. « Avide de jouissance seulement, » réplique-t-elle avec un humour féroce. « Le plaisir seul donne une valeur à l'existence. Celui qui s'adonne au plaisir, quitte à regret cette vie. Celui qui souffre ou vit de privation salue la mort comme une amie. Mais celui qui veut s'adonner au plaisir doit prendre la vie joyeusement, à la manière des anciens. Il ne faut pas qu'il craigne de se régaler aux dépens des autres. Il doit ignorer la pitié. Il faut qu'il attelle les autres comme des bêtes à sa voiture, à sa charrue. Il faut qu'il fasse ses esclaves d'hommes qui, comme lui-même, vivent pleinement et aimeraient s'adonner à une vie de plaisir. Il faut qu'il les utilise pour son service et pour son plaisir, sans remords. Il n'a pas à demander s'ils s'en trouvent bien ou s'ils en sont anéantis. Il faut qu'il ait sans cesse présente à l'esprit l'idée suivante. S'ils m'avaient entre leurs mains comme je les ai maintenant, ils agiraient comme moi et il me faudrait payer leur plaisir de ma sueur, de mon sang et de mon âme. Tel était le monde des anciens. Le plaisir et la cruauté, la liberté et l'esclavage marchaient toujours la main dans la main. Les hommes qui veulent vivre comme les dieux de l'Olympe doivent avoir des esclaves à jeter dans leur vivier et des gladiateurs prêts à se battre pendant leur somptueux festin. Peu leur importe de recevoir quelques gouttes du sang des combattants.
Il est bien question du corps griffé, fouetté, il y a un goût pour la blessure, là, oui.
Il y a un goût pour la jouissance du corps. Et la jouissance du corps, Lacan nous dit, la jouissance, ça va de la chatouille à la grillade. Alors on voit effectivement qu'il y a une gamme tout à fait variée dans laquelle chacun peut se situer. Il y a un goût pour ce qui fait qu'on sent qu'on a un corps. Et pour sentir qu'on a un corps, ben, la douleur est un des éléments les plus frappants. Et ça passe par, effectivement, de la chatouille à la grillade. Alors là, c'est de la caresse à la fustigation, enfin, à la... Bon, couper en morceaux, peut-être pas, hein, quand même. Je crois que ça ne va jamais jusque-là, parce qu'il y a quand même, dans le masochisme, quelque chose qui fait... barrage, qui fait barrière. S'il y a un contrat, c'est pour que quelque chose soit protégé. Et Freud, il le signalait, il disait généralement dans le contrat masochiste, il ne faut pas toucher ni aux yeux ni au sexe. Alors vous voyez que quand même, il y a une... Le contrat masochiste, c'est quelque chose qui limite, ça limite la jouissance du bourreau. C'est quand même à la main de la victime, entre guillemets. Et c'est tout à fait limité. Et même c'est limité dans le temps, même dans sa chère masoche. C'est un an le contrat. Et puis après on revoit les choses. Et c'est limité même sur les sévices qui peuvent être infligés au corps. Il dit c'est sans limite, mais ben, Freud signale vraiment cette limite des yeux et du sexe. Alors elle n'est pas toujours respectée dans les pratiques. La jouissance, c'est quelque chose qui effectivement n'a pas de limite. Donc... Le masochiste, justement, il tente de faire une espèce de pantomime de jouissance sans limite, tout en imposant une limite à l'intérieur de ça. Et c'est ça sa ruse, c'est ça son chiquet, c'est ça sa perversion. C'est ça qui fait que, bon, Lacan parle du chiquet masochiste, c'est assez difficile à comprendre, puisqu'on voit les gens qui souffrent, qui sont vraiment pour petites choses, et en fin de compte... Par-dessous, il y a un contrat, il y a une limite, et il y a surtout que le masochiste, au fond, par sa souffrance et par la mise de son corps, il guette le moment où le bourreau n'en pourra plus, le moment où il y aura l'angoisse du bourreau. Il guette ça, il guette l'angoisse de l'autre, le moment où quelque chose va s'arrêter, parce que le partenaire du masochiste n'est pas sadique. Vous savez, il y a une blague comme ça, « Fais-moi mal, non, tu serais trop content. Hein ». Ça, ce serait le dialogue du sadique et du masochiste. Mais effectivement, le « fais-moi mal », le partenaire du masochiste, il y consent. Mais il est utilisé dans cette pantomime. Même si on voit que Vanda, il prend goût. Hein. Il y a quand même à pouvoir dominer l'autre. Il y a toujours une pente. peut-être qu'on pourrait parler par exemple de Catherine Millet. Ça, c'est un témoignage féminin, en première personne, direct. Et on a l'impression que, dans la mesure où elle se passive totalement, ou elle se livre comme ça, passivement, au désir des hommes. Et quand on la lit plus attentivement, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout ça. Et qu'il y a, dans sa position subjective, une décision d'observer ce qui se passe du côté de l'autre, et qu'elle n'est absolument pas passive, ni passivée dans ses entreprises, quoi. Même quand, à l'arrière d'une camionnette, elle est prise par des sexes anonymes. Elle a une espèce de jouissance, elle dit de la jouissance du comptage. Ça pourrait faire penser à Sade aussi, la jouissance du comptage, hein. Ou aux mille traits de Don Juan, mais enfin bon, ça on va trop vite. Mais il y a là une femme qui témoigne du fait que même dans la passivité, elle est activement passive, elle consent à cette passivité pour savoir quelque chose.
Et d'ailleurs, son livre est très maîtrisé du point de vue de l'écriture.
Oui, complètement, c'est un vrai livre d'écrivain. Et c'est même très maîtrisé du point de vue de ce qu'elle dit d'elle-même, quoi. Elle dit que ce qu'elle veut, et elle a bien raison.
Mon regard fait le tour de la pièce et s'arrête au plafond, où Samson, au pied de Dalila, va être aveuglé par les Philistins. À cet instant, cette peinture m'a paru comme un symbole, l'image éternelle de la passion, de la volupté et de l'amour de l'homme pour la femme. Chacun de nous finit par être Samson, me dis-je en moi-même. On finit toujours par être trahi d'une façon ou d'une autre par la femme qu'on aime, qu'elle porte une blouse de toile ou une fourrure de zibeline. Ils se mettent à me fouetter si impitoyablement, si terriblement, que je sursaute à chaque coup et que tout mon corps se met à trembler de douleur. Les larmes inondent mes joues pendant que Vanda, allongée sur l'ottomane, appuyée sur un bras, contemple la scène avec une curiosité féroce et ne se tient plus de rire. Être maltraitée sous les yeux d'une femme adorée par un rival comblé procure un sentiment indescriptible. Je meurs de honte et de désespoir. Et le plus ignominieux est que je ressens une sorte de plaisir fantastique et suprasensuel dans cette situation pitoyable, livrée au fouet d'Apollon et bafouée par le rire cruel de ma Vénus.
Il y a un autre aspect de la pensée extrêmement fort chez Sacha Mazoch qui est celui du naturalisme. C'est pas de la littérature naturaliste, c'est pas de la littérature réaliste, mais il avait une formation biologique extrêmement forte et que tout ce qui concernait la nature, les sciences de la nature, la reproduction, la biologie des plantes, la biologie des animaux, c'est quelque chose qui l'intéressait.
Il y a beaucoup de descriptions de paysages, hein, avec des détails.
Ça, c'est vrai qu'il y a ce côté-là parce que c'était un grand voyageur et qu'il fallait toujours définir la couleur locale, mais les travaux de Bernard Michel, par exemple, ont montré que la première partie de sa vie a été occupée, mais comme d'ailleurs pour Fourier, comme pour Bakounine, par une lecture extrêmement assidue de tout ce qui était science de la nature. Et science de la nature, ça obligeait naturellement à s'interroger sur la physiologie de la femme. Il n'y a pas que Balzac qui s'intéressait à ça, il y avait aussi tous les biologistes. Et c'est à ce moment-là qu'est née dans la biologie cette idée, quand même, bien avant les recherches sur les chromosomes, bien avant l'histoire de XX ou XY, très vite, et c'est déjà une idée qu'on trouve chez Louandra Salomé, donc il y a de fortes chances que Sacha Mazoch ait été aussi en contact de cette idée-là, c'est que l'homme n'est jamais qu'une femme qui a raté. Et finalement, si on regarde le cheminement de tous les hommes chez Sacha Ramazzotti, on ne peut pas dire que toutes les femmes réussissent, mais en tout cas, on est certain que tous les hommes échouent. Et de ce point de vue-là, sa théologie, sa théodicée rejoint sa conception biologique. Et donc, l'idée du contrat par laquelle on a commencé est quelque chose qui éclaire un petit peu sa démarche. Mais si on reste dans cette perspective-là, on est obligé de dire que le contrat n'est qu'un révélateur d'une certaine incapacité de l'homme à arriver à trouver une issue. C'est mieux que la loi, parce que ça rétablit une égalité totale. Mais finalement, il montre bien que l'égalité, elle n'y est pas, puisque dès qu'il y a le contrat, la femme devient toute puissante et l'homme est quasiment résorbé dans le désir féminin ou dans la présence féminine. Donc on arrive à cette idée que finalement, l'homme est probablement une femme qui a raté, une espèce d'erreur.
Le père de Mardona, accompagné d'un jeune homme, entra dans la chambre. Le vieillard se débarrassa à la hâte de son chapeau de paille et posa son bâton derrière le poêle. Puis il vint saluer sa fille et baisa sa main qu'elle lui tendit avec majesté. Lorsqu'il remarqua l'étranger, il lui souhaita la bienvenue d'un signe de tête et engagea avec lui la conversation, c'est-à-dire qu'il écouta plutôt ce que Sabadil lui disait en l'approuvant d'un geste ou en répondant « Dieu soit loué, grâce à Dieu » tout en soupirant profondément. Il parlait avec lenteur, comme si chacune de ses paroles eût été un trésor qu'il fut obligé de déterrer. Un signe de Mardona appela Sabadil à ses côtés. « Tu es peut-être surpris, commença-t-elle, de nous voir tous si gais, si joyeux. » Notre religion, vois-tu, n'a rien de lugubre. Elle diffère en cela complètement de la vôtre, qui ne demande que des sacrifices et du renoncement, qui taxe de péché tout ce qui divertit le cœur de l'homme. Nous servons Dieu sans pour cela condamner les plaisirs qui, par eux-mêmes, n'ont rien que d'absolument innocent. Nous avons l'habitude de nous réunir le soir, les femmes, les jeunes hommes, pour discourir ensemble. Quand les vieillards se mêlent à nous, ils sont les bienvenus. On cause, on s'entretient de choses utiles, on se divertit souvent, et nos veillées sont fort gaies. Mardona parlait à Sabadil d'une voix douce et avec beaucoup de bonté. Elle était si belle et si chaste en lui parlant ainsi, qu'il croyait voir son visage illuminé comme la face d'une sainte. Cependant, il soutint hardiment son regard, ce qui étonna la mère de Dieu, accoutumée à voir se baisser tous les yeux devant elle. Le jeune paysan qui était entré en compagnie du père de Mardona se nommait Vadash. Il se tenait encore debout vers la porte et ses petits yeux noirs étaient arrêtés sur la mère de Dieu, remplis de crainte. Son petit nez retroussé ne s'accordait nullement avec sa bouche aux lèvres épaisses, sévères et empreintes d'un cachet de mélancolie. Il tenait ses mains derrière son dos ou dans les poches, comme si elles ne lui eussent pas appartenu et qu'il eût craint qu'on ne les lui réclamât. « Vadash, dit au bout d'un moment la mère de Dieu d'une voix calme, ne viens-tu pas me saluer ?» Le jeune homme regarda devant lui d'un air épouvanté, comme s'il se fût agi pour lui de franchir un abîme. Enfin, il se glissa le long du mur sur la pointe des pieds jusqu'à Mardona et tomba devant elle à genoux, la tête inclinée. Plus près, Vadash, plus près, dit Mardona. Il s'avança, traînant ses genoux sur le carreau, et gravit péniblement les marches conduisant au siège de la mère de Dieu. Celle-ci se pencha vers lui, pleine de compassion, et lui donna le baiser de paix. Vadash retourna à sa place en chancelant, puis s'approcha de Yehorig et des autres jeunes gens afin de les embrasser également. Thank you.
Pierre-Emmanuel Dosa, vous vouliez me parler un peu plus de La Mère de Dieu.
Oui,
qui est un de vos...
c'est un des romans les plus déroutants, c'est probablement l'un des mieux construits, l'un des romans qui a le plus d'unité et qu'en même temps le plus difficile à interpréter. Et quand Sacha Mazoch lui-même en parlait, donc il parlait de son projet de Théodicée, alors il a procédé par cycle. Ce roman-là s'inscrivait dans le cycle du Legs de Caïn, qu'on interprète d'ailleurs souvent de manière réductive. Pascal Quignard qui a fait un très beau livre sur Sacha Mazoch qui s'appelle Lettres du balbutiement parle simplement se limite à l'opposition Jésus-Caïn. Alors Jésus c'est l'innocent, l'agnelé sacrifié et puis Caïn c'est le meurtre fondateur originel, etc. Bon, il n'est pas sûr d'abord que la première violence que Caïn soit fondateur. L'idée que Caïn aurait été fondateur, c'est quand même une invention du 19e siècle et du caïnisme. Et contrairement à beaucoup d'exégètes de Sacha Mazoch, moi je ne suis pas du tout convaincu que le cycle Legs de Caïn, il faille le mettre dans cette tradition du roman gothique, du roman noir. Certes, il y a certains attributs de ce qu'on a appelé les châteaux de la subversion, mais il y a quelque chose de beaucoup plus directement théologique est beaucoup plus fort et beaucoup plus marqué par les obsessions chrétiennes que chez Victor Hugo ou chez d'autres. Donc quand Sacha Mazoch fait La Mère de Dieu, il explique ça comme son désir de faire l'anti-Leibniz. L'anti-Leibniz, ça veut dire beaucoup de choses. Dans une lettre de Diderot à Sophie Volant, il raconte, donc Diderot avait beaucoup d'admiration pour Leibniz, en même temps ça lui inspirait une certaine malice, et il explique qu'un jour voyageant, Leibniz s'interroge sur un temple de Memphis en Égypte avec une série de globes les uns sur les autres, et il demande ce que c'est. Il y a une petite figure tout en haut qu'il n'arrive pas à voir, et le grand prêtre lui explique que tout en haut de ces sphères qui représentent le monde parfait, c'est couronné par le viol de Lucrèce par Tarquin. Alors il faut savoir que le viol de Lucrèce par Tarquin, c'est aussi l'une des obsessions de saint Augustin, et que saint Augustin a rejeté la femme tout en bas parce que elle a consenti au plaisir dans le viol. Et comment sait-on qu'elle a eu du plaisir dans le viol? C'est qu'elle a mis fin à ses jours. Voilà. Donc tout ça, pour Leibniz, ça avait une place totale dans la perfection du monde. Quand Sacha Mazoch veut faire sa propre théodicée, c'est évident qu'il inverse complètement les valeurs. Il inverse les valeurs, mais c'est pas pour dire tout ce qui était le mieux chez Leibniz, ça va devenir le pire chez moi. Ça, c'est un moment de sa pensée. Alors, à mon avis, il y a probablement une erreur de perspective que l'on pourrait corriger par un autre quasi-contemporain qui est quand même Rilke. Et si on oublie le roman noir, si on oublie le décadentisme, toutes ces choses-là, il y a des points de rencontre évidents, mais il y a aussi une autre conception de la femme, et il y a aussi une autre idée du rapport des hommes avec les femmes qui nous est proposée et qui est proposée dans La Mère de Dieu. Parce que La Mère de Dieu est un roman tout à fait étrange, où la Mère de Dieu dit à tous ses enfants, aimez-vous, quand ils veulent s'aimer charnellement. Il semble qu'elle soit jalouse, qu'elle souhaite plutôt des rapports entre frères et sœurs, qu'elle a un amour très exclusif et qui se soucie de la sexualité des autres, mais qui se soucie de la sexualité que pour qu'il n'y en ait pas. Et donc elle propose aux hommes, puisque les femmes visiblement peuvent se trouver leur satisfaction en dehors de toute sexualité, en tout cas en dehors de toute génitalité, elle propose aux hommes de se sacrifier. Et de ce point de vue-là, il y a un écho qui est parfait chez Rilke, et ça n'est pas étonnant de savoir que le poème de Rilke que je vais vous citer a été écrit pendant la guerre, un massacre d'hommes par des hommes, et c'est un homme qui refusait cette masculinité-là qu'il écrivait à Louandras Salomé. Louandras Salomé, autre contemporaine capitale, qui avait une formule qui est très belle et qui est plus une dimension théologique que psychanalytique, mais qui disait qu'à l'heure la plus haute, l'homme n'est jamais qu'un charpentier à côté de Marie. Et je trouve que ça définit absolument toute l'œuvre de Sacha Mazoch et tout son imaginaire. Alors reste une solution pour l'homme dans ce cas-là, et c'est celle que propose. Ça n'est pas... La Mère de Dieu finit par un sacrifice. La Mère de Dieu finit par sacrifier l'amant qu'elle s'est rêvé ou dont on a cru qu'elle le rêvait pour elle. Elle lui enfonce un couteau en plein cœur, et naturellement l'homme c'est l'extase de la mort, c'est l'extase de l'amour, en dehors de toute consommation. Et le poème de Rilke dit tout simplement ça. Il faut mourir parce qu'on les connaît, mourir de l'indicible floraison du sourire. Le sourire de Madonna, de la Mère de Dieu, est quelque chose d'absolument incontournable. Mourir de leurs mains légères, mourir de femme. Jusque-là, le programme est parfaitement accompli dans la Mère de Dieu. Que l'adolescent chante celle qui donne la mort, lorsqu'elle chemine haut à travers l'espace de son cœur, que de sa poitrine épanouie s'élève son chant vers elle, inaccessible, ah, qu'elles sont étrangères. Au-delà des cimes de son cœur, elle monte et répande de la nuit doucement métamorphosée dans l'abandonnée vallée de ses bras. Il mugit le vent de leur montée dans le feuillage de son corps. Il scintille ses fugitifs ruisseaux. Et puis vient finalement le Amen, la consécration totale de l'épisode, sa conclusion, son apogée, la résurrection, ce qui fait que tout a un sens, tout prend sens, mais que l'homme se taise, plus ébranlé, lui qui, sans chemin, la nuit dans les monts de ses sens aérés, qu'il se taise. Et vous verrez que tous les romans de Sacha Masoch se terminent par un homme qui se tait, qu'il soit tué, qu'il consente au silence, qu'il expire, toujours, c'est ce programme de silence.
Quand Freud parle du masochisme, il dit du fantasme. La définition du masochisme, c'est la dénomination masochiste comprend toutes les attitudes passives par rapport à la vie sexuelle et l'objet sexuel, dont la plus extrême apparaît comme la liaison de la satisfaction à l'endurance d'une souffrance physique ou psychique du côté de l'objet sexuel. Oui, physique via les coups, mais aussi psychique via les insultes. Les insultes qui visent la jouissance, en fin de compte. Et dans un autre texte sur problème économique du masochisme, il énumère ce que le sujet réalise dans sa mise en scène, de point ouvrez les guillemets, être bâillonné, attaché, battu de douloureuses façons, fouetté, maltraité d'une façon ou d'une autre, forcé à une obéissance inconditionnelle, souillé, abaissé. Vous voyez que cette pluie de verbes, c'est comme une pluie de coups sur le sujet en position d'objet. Mais cette conjugaison à la forme passive, être ceci, être cela, hein, c'est pas battre, mais être battu, forme passive, on s'aperçoit quand même, quand on examine davantage le masochisme, que ce n'est pas une forme passive, c'est une forme pronominale. Se faire battre. C'est là qu'on voit la part d'activité, d'intentionnalité du masochiste. C'est se faire battre, se faire rabaisser, se faire. C'est un se faire. Alors, bien sûr, il y a des gens qui sont complètement emportés par leur... violence et qui, sur le corps des enfants, peuvent dépasser les normes. Mais est-ce qu'il y a des normes, d'ailleurs? Non plus, il n'y a pas de normes. Mais qui peuvent être dépassées par la jouissance qu'ils prennent à donner des coups. Et puis le sujet qui les reçoit peut aussi être dépassé par la jouissance qu'il prend à les recevoir. Alors, parce que la jouissance n'a rien à voir avec les bons sentiments, avec la loi, avec... ce qui se fait, l'amour, etc. La jouissance, c'est quelque chose qui est complètement sans loi, hors la loi. Et donc, entre parents et enfants, il peut y avoir des déchaînements de jouissance, comme entre hommes, entre femmes, et entre hommes et femmes. Hein. Mais entre parents, et, enfin, entre adultes et enfants aussi. Bon, peut-être que la pédophilie n'est jamais qu'une forme sexualisée de ce type de comportement et que les mauvais traitements sont une forme désexualisée mais resexualisée de cette jouissance-là. Qu'elle soit condamnée par la loi, c'est tout à fait normal. Qu'on dise que c'est inhumain, ça c'est peut-être un peu trop angélique. C'est humain. Yeah.
On a parfois l'impression, Christiane Théris, que ce masochisme est présent dans la religion chrétienne, en tout cas.
Ah oui, apostolique et romaine, oui, bien entendu, il est présent, parce que la figure du Fils crucifié, c'est une figure éminemment masochiste. On voit aussi Saint-Sébastien, c'est une image du masochisme. Et puis tous les martyrs qui se font dévorer, enlever les seins, enlever les yeux, enfin, tous les morceaux de corps peuvent servir de don à un dieu qui réclame le livre de chair. Et il y a dans la religion catholique une dimension masochiste évidente. D'ailleurs, on n'a qu'à se promener dans les églises pour en voir la dimension, enfin la connotation sexuelle, très souvent, hein, des martyrs, des dits martyrs.
Et vous pensez à quoi, là? Par exemple, des statues.
Oh, mais quand on voit celle qui promène ses deux seins sur un plateau, là, je ne sais plus laquelle c'est, Sainte Agathe. C'est Sainte Agathe, oui. Puis Sainte Cécile, c'était ses yeux, enfin. Judith et Holoferne, il y a laissé la tête. Salomé et Saint-Jean, il y a laissé la tête aussi. Enfin, chacun y laisse un morceau. Dans l'Empire des Saints, il y laisse son sexe, mais ce n'est pas le pire. Enfin, c'est jamais qu'un morceau, quoi. Mais dans la religion, on voit qu'effectivement, les martyrs laissent un morceau de corps. Et puis, Jésus, il y passe tout entier pour l'amour du Père. Donc, il y a une promotion quand même du masochisme, c'est-à-dire de cette jouissance de se faire l'objet de l'autre avec un grand A, comme dirait Lacan, c'est-à-dire de l'autre, pas le semblable, l'autre majuscule. Dieu étant une figure de l'autre majuscule, et la femme étant une figure de l'autre majuscule aussi. On le voit d'ailleurs dans Bataille, quand il dit « Dieu est une pute, Dieu est une femme ». Cette équivalence est reprise par Lacan, et ça fait une espèce de série entre le petit masochiste qui s'est fait fouetter par la femme, et une série logique, disons, entre l'enfant qui se fait battre par les parents, le masochiste qui se fait fouetter par une femme, et... celui qui meurt sur la croix pour l'autre. Alors là, l'autre, c'est le père. Dans le masochisme, on pourrait penser que c'est la mère. Mais enfin, que ce soit le père ou la mère, ça n'a pas une grande importance. C'est un autre supérieur qui demande... Enfin, que je mets en position de me demander quelque chose de mon corps. Pour sa jouissance.
En vous écoutant, Pierre-Emmanuel Dosa, que l'angoisse est au moins aussi importante que la jouissance dans cette œuvre.
Elle est presque première, d'ailleurs. Le grand orgasme, c'est celui de la résurrection. Mais là encore, on retrouve exactement le schéma des pères de l'Église, puisque, ou en tout cas d'une certaine tentation gnostique, dans la mesure où le séjour sur terre est le séjour dans une vallée de larmes, qu'on est comme exilé de l'amour de Dieu, qui est la jouissance absolue, et là encore sans sexe, ou en tout cas sans génitalité, on arrive à cette situation que le monde, si beau soit-il, même quand c'est dans le jardin clos de la fiancée, de l'aimer, qu'ils n'ont que du bonheur, ça n'est jamais qu'un exil, et que le véritable, donc que souffrance, qu'angoisse de la séparation, angoisse de, comme disait Lacan, de cette formule qu'on croirait tirer de sa Charmazoc. Tout désir vise toujours à côté de son objet, donc il n'y a jamais de jouissance possible, si ce n'est dans un au-delà. Donc l'angoisse est première, naturellement, et la jouissance, c'est le grand orgasme et celui de la résurrection. Et ce point de vue-là, c'est vrai qu'encore, c'est pas de bon ton de le dire, mais quand les pères de l'Église s'interrogeaient sur la résurrection, il fallait imaginer très concrètement, physiquement, que les tombes allaient s'ouvrir et que les vagissements des ressuscités ressemblaient plus au bruit de l'orgasme qu'à celui habituel des cimetières. Donc là encore, on est en plein dans cet imaginaire-là. C'est vraiment l'épanouissement, ce qu'on a appelé la parousie, le bonheur, le paradis sur terre, c'était ça. C'est toute la dimension gnostique. Et du coup, c'est vrai qu'on s'est arrêté dans l'interprétation de Saint-Charmazoc à Caïn, mais c'est faire commencer les choses beaucoup plus tard. Il y a d'autres légendes que connaissait parfaitement Saint-Charmazoc, qu'on aurait pu prendre et on aurait sans doute mieux compris son itinéraire. Il y a l'idée que après la faute, Adam a continué à vivre beaucoup plus longtemps, mais il s'est séparé d'Ève. Et donc, comme il n'y avait plus de copulation possible et plus de sexualité possible, il fallait bien que le malheureux se libère du poids de sa semence. Et sa semence est tombée comme ça sur la terre. Et a fait autant de sources de connaissances. Donc toute l'histoire de l'humanité, c'est celle de la semence d'Adam qui a cessé de germer. À la fin de la semence d'Adam, au bout d'un cycle complet, arrive Saint-Charmazoc qui dit « ça y est, c'est fini, voilà la solution ». Et donc on retrouve et on passe. Mais ce sont des légendes de la tradition juive la plus orthodoxe, mais qui avaient quantité d'expressions et qui étaient parfaitement connues dans tout ce monde d'Autriche-Hongrie. Donc il y avait autant de sectes chrétiennes que de sectes juives, donc toutes les hérésies se mélangeaient, et finalement avec souvent les mêmes obsessions, les mêmes aspirations. Alors toujours l'idée, on retrouve toujours le sexe, cette espèce de fascination, et puis l'idée qu'on s'y brûle, que c'est quelque chose de fort passionnant, mais qui ne mène à rien. Mais c'est cette perspective théologique qui finalement finit par triompher. Mais le vrai masochiste, en l'occurrence, c'est saint Augustin, c'est pas Saint-Charmazoc. C'est saint Augustin qui aurait mérité de figurer dans Krafft-Ebing, dans la psychopathia sexualis, mais au lieu de l'article augustinisme, on a mis masochisme.
Une vie, une œuvre, Léopold Saint-Charmazoc, avec Christiane Théris, psychanalyste, Pierre-Emmanuel Dauza, écrivain. Extrait de La Vénus à la fourrure et de La Mère de Dieu, lu par Jean-Baptiste Malartre. Signalons la biographie de Saint-Charmazoc par Bernard Michel aux éditions Robert Laffont. Prise de son, Christophe Bompas. Mixage, Marie-Dominique Bougot. Mathieu Cavalli. Réalisation Dominique Costa, une émission de Monette Berthomier.
C'était Une vie, une œuvre, une émission coordonnée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon et consacrée aujourd'hui à Léopold von Saint-Charmazoc. Podcast, réécoute, commentaires et compléments sur notre site internet. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, à l'occasion du Salon du Livre de Paris, le poète au destin tragique, Jacques Vacher.